Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en tout cas à l'église de Saint-Maur et pour ce moment où nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous propose pour commencer que nous puissions regarder ensemble une vidéo. On peut rallumer la lumière. Voilà un extrait intéressant tiré de la série de Chosen, où nous voyons Jésus et ses disciples en chemin. Et je trouve que la conversation qu'il y a entre Pierre et Jésus donne des indications de ce qui se passe dans le groupe des disciples. Alors gardez bien cette scène en tête, et à présent, nous allons lire la parole de Dieu, qui se trouve en Marc chapitre 9, les versets 30 à 50. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. » Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi être entré manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Nous sommes dans la partie centrale, la section centrale de l'évangile de Marc, où Jésus enseigne ses disciples, alors qu'il est en route vers Jérusalem. Jésus cherche à ouvrir leurs yeux sur le Messie qu'il est vraiment. Et nous n'oublions pas que déjà, à la fin du chapitre 8, Jésus a annoncé une première fois à ses disciples ce qu'il attendait prochainement. La souffrance, la mort et la résurrection. Il a ensuite lancé à la foule cet appel à le suivre, en renonçant à soi-même, en portant sa croix. Et dans notre texte, après le moment de la transfiguration, après l'échec des disciples à chasser un démon, eh bien, Jésus prend le temps d'enseigner en privé ses disciples. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque nous avons abordé le récit de la transfiguration, qu'est-ce que la voix divine avait déclaré? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que cette voix a dit à Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons particulièrement être attentifs aux paroles de Jésus. Particulièrement attentifs, d'autant plus si nous avons choisi de le suivre. D'autant plus si nous avons choisi d'être ses disciples. La raison pour laquelle nous pouvons prendre ensemble les versets 30 à 50 est d'abord géographique. Vous voyez, au verset 30, nous lisons que nous sommes encore en Galilée. Et en fait, au chapitre suivant, au chapitre 10, verset 1, nous lisons que Jésus se rend en direction de la Judée, qui est l'étape qui précède Jérusalem. Dans l'évangile de Marc, comme dans les autres évangiles, les déplacements de Jésus et de ses disciples, de lieu en lieu, font partie de la narration. Ce ne sont pas seulement des éléments de contexte. Jésus est en route. Jésus est en route et il sait qu'au bout du chemin, il devra porter sa croix et il devra mourir sur cette croix pour nos péchés. Donc, ces indications de lieu nous permettent de nous rendre compte qu'au fur et à mesure, Jésus s'approche de cette destination où il donnera sa vie. Mais pour l'instant, nous sommes en Galilée. Et en Galilée, Jésus choisit la discrétion parce qu'il sait que dans cette région-là, il est particulièrement connu. Et comme à d'autres moments déjà, où on a eu l'occasion de le voir dans l'évangile de Marc, Jésus choisit d'être discret cette fois-ci. Jésus ne veut pas qu'on sache où il se trouve, et regardez verset 21, car, la raison qui nous est donnée, car il enseignait ses disciples. Il y avait un temps pour être avec la foule, et à présent, ce temps est dédié à ses 12 disciples en particulier. Pour les former, pour les instruire, pour les enseigner, pour les préparer à leur futur ministère. Et en tant que lecteur, nous avons droit à ce tête-à-tête. Pour la deuxième fois, comme au chapitre 8, Jésus annonce ce qui doit lui arriver, verset 31. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. L'annonce est brève. Il n'est pas fait mention des anciens, des prêtres et des scribes, comme dans la première annonce. Et donc ce n'est plus un groupe en particulier qui est visé, mais c'est l'être humain. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. L'être humain se rend coupable en faisant mourir Jésus, l'homme sans péché, le Fils du Dieu vivant. Et en même temps, plusieurs spécialistes soulignent que le verbe qui est employé est au passif. Et je pense que vous l'avez remarqué aussi, si vous vous souvenez de ce qu'est le passif en français. Le Fils de l'homme sera livré. Par qui? Bien sûr, nous pouvons penser à la trahison de Judas. Mais le passif est parfois utilisé par les auteurs bibliques pour éviter de mentionner le nom de Dieu. Oui, si Jésus finit entre les mains des hommes, c'est aussi parce que Dieu le veut. C'est aussi parce que c'est le plan de Dieu pour nous sauver. Ainsi, on cite par exemple Ésaïe 53, verset 6. Je vous le lis. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ainsi, pas de doute sur la responsabilité coupable des hommes et pas de doute sur le plan de Dieu qui se réalise, tel que cela a été déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Dieu aussi a un rôle à jouer. Jésus doit mourir et ce sont les hommes qui le feront mourir, mais il ressuscitera. La mort n'aura pas le dernier mot. Et tout à l'heure, nous l'avons chanté, « Mon Rédempteur vit !» Cependant, Marc nous rapporte que les disciples ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur annonce pour la deuxième fois déjà. Et cette fois-ci, vous remarquez que Pierre ne prend pas la parole, parce que la dernière fois, lorsqu'il l'a prise, eh bien, il a été repris très sévèrement. Nous avons juste la description de ce qui se passe, en eux au verset 32. Ils craignaient de le questionner. Alors, on n'a pas plus d'explications pourquoi ils craignaient de le questionner, mais ils n'osent pas en demander plus. Et nous le verrons plus tard, au chapitre 10, Jésus annoncera pour la troisième fois ce qui lui arrivera. Et l'attitude des disciples montre une nouvelle fois combien ils sont lents à saisir ce qui est en jeu. Et si Marc nous rapporte ces trois annonces en l'espace de trois chapitres, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, c'est pour nous montrer combien Jésus voulait que ses disciples comprennent qu'il est le Messie souffrant, qui doit mourir et ressusciter. Il y a une insistance là-dessus. Et il faut absolument que les disciples comprennent cela. Et nous savons que tout cela est en lien avec notre salut. Et heureusement, les disciples finiront par le comprendre un jour après la résurrection. Mais pour l'heure, ils sont encore en train d'apprendre. Alors je vous propose de regarder maintenant ce qui se passe à Capernaum. À Capernaum, eh bien, le maître continue d'enseigner ses disciples et je vous propose d'aborder les paroles de Jésus suivant quatre leçons. Puisque nous sommes dans une partie de l'évangile où nous avons l'enseignement de Jésus, il est intéressant de voir quelles sont les leçons à tirer de cet enseignement. Et d'abord, premièrement, une leçon d'humilité. Jésus et ses disciples sont à présent dans une maison, c'est ce que nous voyons au verset 33. Sans doute le lieu habituel où le Seigneur se retrouvait avec ses disciples. Le cadre idéal pour s'entretenir en privé. Et voilà qu'il leur demande ce qu'ils pouvaient bien se dire sur le chemin. Et voyez la réaction des disciples, verset 34. Ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Et cela nous rappelle un petit peu, si vous avez encore l'extrait que nous avons vu au début en tête, cela nous rappelle un petit peu ce que Pierre disait à Jésus. Où Pierre parlait de hiérarchie. Il faut qu'il y ait une hiérarchie dans le groupe des disciples. Il faut qu'il y ait un leader. Et en l'occurrence, lui, Pierre. Et vous avez remarqué aussi, en tout cas dans l'extrait que nous avons vu, que Jésus a tout de suite calmé ses ardeurs. Alors maintenant, revenons à notre texte. D'un côté, Jésus leur dit qu'il va mourir de la main des hommes, et de l'autre, les disciples discutent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Est-ce que vous voyez un petit peu le contraste? Décidément, les disciples ont d'autres préoccupations que celles de Jésus. Aujourd'hui, c'est comme si nous parlions de promotion dans l'Église, de gravir des échelons. Et vous m'accordez que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être. L'Église n'est pas le lieu pour avoir une promotion. Par exemple, ne pensons pas que devenir diacre est une promotion pour un membre. Surtout si nous nous rappelons que diakonos en grec signifie serviteur. Eh bien, vous voyez, c'est aussi incongru que ce sujet de discussion qu'ont les disciples. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus enseigne à propos du service. Observez ce qui se passe au verset 35. Alors, c'est un détail qui parfois peut nous échapper, mais on voit que Jésus s'assoit. Et lorsque Jésus s'assoit, eh bien, c'est la posture du maître. C'est la posture de celui qui enseigne. Jésus rassemble les 12 et leur donne cette première leçon. Verset 35, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Sans doute qu'au moins quelques-uns parmi les disciples voulaient avoir le premier rang. Et certains commentateurs rapportent que c'était un sujet qui était aussi discuté dans la littérature rabbinique de l'époque. Qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu ? Voilà une discussion qui était aussi discutée parmi les spécialistes. Jésus montre au contraire que celui qui veut être le premier doit être le dernier, le serviteur de tous. Et c'est important de lire l'ensemble de cette expression, le serviteur de tous. Pas seulement de quelques-uns, pas seulement de deux ou trois, le serviteur de tous, de tous les autres. C'est très différent de ce que nous pensons naturellement quand nous parlons de grandeur, de primauté. Et Jésus montre une autre voie, la sienne, celle qu'il va lui-même emprunter. Après tout, Jésus n'est-il pas le serviteur par excellence ? Et écoutez cette autre parole de Jésus rapportée par Luc. En Luc chapitre 22, verset 27, voici ce que nous lisons, c'est Jésus qui parle. « Car qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Assurément, Jésus est le plus grand et pourtant c'est celui qui sert. Jésus enseigne à ses disciples à ne pas avoir des rêves de grandeur. C'est contraire à l'humilité dont il fait preuve lui-même. Comment les disciples pourraient-ils prétendre vouloir être grands quand le Maître lui-même leur montre ce qu'est la vraie grandeur ? Si le Maître est venu pour servir et pour tous les servir, combien plus les disciples devraient adopter le même état d'esprit. Et voici l'illustration que Jésus met devant leurs yeux, verset 36. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Il faut savoir qu'à l'époque, l'enfant ne bénéficiait pas de la même considération que dans notre société actuelle. Pour les contemporains de Jésus, un enfant n'était pas considéré comme important. L'enfant représente ce qui n'est pas important. Et pourtant, par ses gestes, Jésus montre tout le contraire. Littéralement, Jésus prend cet enfant dans ses bras. Est-ce que vous parvenez à imaginer ce geste ? Jésus prend cet enfant dans ses bras. L'enfant qui est considéré dans sa société de l'époque comme quelqu'un qui n'est pas important, il le prend dans ses bras. Avant d'expliquer à ses disciples ce qu'il attend d'eux, c'est-à-dire accueillir celui qui est faible, accueillir celui qui semble le moins important. Voilà l'affaire de ceux qui sont humbles. Voilà l'affaire de ceux qui ne recherchent pas à être supérieurs aux autres. Voilà l'affaire des vrais disciples de Jésus. Et cela est d'autant plus important que Jésus montre que cela n'est pas sans rapport avec lui-même. Celui qui accueille l'un de ses petits en son nom, le reçoit lui, l'accueille lui. Et non pas seulement lui, mais aussi celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. Est-ce que dans l'Église, je sais accueillir le frère ou la sœur qui semble le plus insignifiant ? Est-ce que je pourrais accorder mon temps au frère et à la sœur qui semble le plus isolé, le plus à l'écart, qui n'attire pas l'attention au premier abord ? Si oui, alors effectivement, je suis un disciple de Jésus qui fait honneur à son maître. Dans l'Église, il y a toujours des personnes qui sont considérées comme petites aux yeux des autres. Mais est-ce que cela signifie que mon attention à leur égard doit être aussi petite ? Jésus nous montre le geste lorsqu'il prend cet enfant dans ses bras. Et parce que Jésus le fait, je le ferai aussi. Et ce que Jésus dit à ses disciples, peut-être vous fait réagir, mais fait aussi réagir l'un d'entre eux. Verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jean et les autres, pour continuer à parler des disciples, pensaient peut-être bien faire. Mais là aussi, nous percevons, peut-être, une attitude qui trahit leur état d'esprit du moment. Et certains ont relevé justement que dans la raison que Jean donne à Jésus, Jean dit « parce qu'il ne nous suit pas, parce qu'il ne nous suit pas », au lieu de dire « parce qu'il ne te suit pas ». Jean et les autres éprouvent sans doute un sentiment de supériorité, un sentiment de privilège, parce qu'eux, ils font partie des 12 que Jésus a choisis. Et en dehors de ce cercle, les autres devraient se faire discrets. Mais voilà la leçon du maître, verset 39. Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. Jésus sait que cet homme qui a agi en son nom n'est pas contre eux. Lui aussi croit en Jésus. Lui aussi, eh bien, combat les démons. Et même s'il ne suit pas le groupe, il n'est pas pour autant à bannir. Et de nouveau, Jésus doit corriger la façon de penser de ses disciples. Et est-ce que cela nous concerne aussi? Comment réagissons-nous envers des frères et sœurs qui ne nous suivent pas, mais qui appartiennent clairement à Christ? Là, il y a une question d'accueil. Là, il y a une question d'ouverture. Le comportement que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs qui viennent peut-être d'une autre église, qui viennent peut-être d'une autre dénomination, révèle ce qui est vraiment dans notre cœur. Est-ce l'orgueil qui m'anime parce que je crois que ma façon de louer le Seigneur, ma façon d'évangéliser ou ma façon de vivre la communion fraternelle est meilleure que celle des autres? Qui suis-je pour ne pas accueillir celui que Jésus accueille? Et réfléchissons aussi à ce que l'apôtre Paul veut dire quand il écrit aux chrétiens de Rome. Dans l'épître aux Romains, chapitre 15, verset 7, voici ce que Paul écrit. « Faites-vous, » il s'adresse à l'Église, « faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Et quand il écrit cela, il s'adresse à la fois à ceux qui sont faibles dans la foi et à ceux qui sont plus affermis dans la foi. « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli. » Et j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que nous avons vu la semaine passée en étude biblique dans le texte de Galates 2. Alors certains d'entre vous étaient présents, et j'espère que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a vu ensemble. Paul raconte dans ce chapitre 2 de l'épître aux Galates comment il a été accueilli à Jérusalem et comment son ministère auprès des non-juifs a été accepté par les apôtres. Et qui retrouve-t-on parmi ceux qui lui tendent la main d'association? Eh bien, Jean, celui-là même qui, dans notre texte, se montre si sectaire, eh bien, dans le texte de Paul, montre qu'il a compris, montre qu'il peut accepter ceux qui, peut-être, ne suivent pas le groupe des apôtres en tant que tels, mais qui œuvrent aussi pour le Christ. Je voulais juste relever ce fait qui montre que, effectivement, Jean, à ce moment-là, bien après, bien sûr, a enfin compris la leçon du maître. Jésus l'affirme à ses disciples au verset 40 de notre texte, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et comme précédemment, Jésus accorde de l'importance au moindre geste bienveillant. Si vous regardez le verset 41. « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » À l'époque, lorsqu'on donnait un verre d'eau, et aujourd'hui encore, il me semble, C'est un geste qui est associé à l'hospitalité. Et bien que ce geste soit vraiment simple, ordinaire, courant, eh bien Jésus le valorise ici en parlant de récompense. Pourquoi ? Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Parce que ce geste est fait à ceux qui appartiennent à Christ. Voilà ce qu'il dit au verset 41. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ. Et comme nous l'avons vu plus tôt, eh bien, ce qui est fait à l'un des disciples de Jésus est fait à Jésus lui-même. Et c'est pour cela que même ce petit geste de donner un verre d'eau est pris en considération par Jésus. Là aussi, Jésus dirige nos regards vers ce qui est petit, vers ce que nous avons tendance à ne pas remarquer, vers ce que nous avons tendance à considérer comme banal, donner un verre d'eau. Mais au contraire, remarquons aussi celles et ceux qui rendent de petits services dans l'Église. Et soyons reconnaissants. Eux aussi, Jésus les accueille. Jésus demande donc à ses disciples d'avoir de la considération pour tous ceux qui sont pour eux et pour lui, le Christ. Le cercle des disciples ne s'arrête pas juste aux 12. Je vous propose de prendre un temps pour réfléchir à ce que nous venons de voir. Nous n'avons pas encore terminé, mais j'ai demandé à Oscar de nous faire un petit interlude musical et que pendant ce moment-là, vous ayez l'occasion de réfléchir sur ce qui a été dit, ce qui vient d'être dit, avant que nous puissions poursuivre. La première leçon était une leçon d'humilité. La deuxième leçon était une leçon d'ouverture, prêt à accueillir tous ceux qui sont pour Christ. La troisième leçon est un avertissement contre les occasions de chute. Verset 42, « Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Voilà un avertissement à prendre très au sérieux. Que signifie être une occasion de chute pour autrui ? Eh bien, c'est l'idée d'être un obstacle pour l'autre, qui l'amène à trébucher, qui l'amène à tomber dans le péché. Et plus grave encore, c'est faire obstacle à ceux qui voudraient suivre Jésus. C'est très grave. Et Jésus reprend les disciples sur l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de cet homme qui chassait les démons en son nom. Il y a sans doute un lien avec ce qu'il est en train de dire ici. Quand il leur dit « Ne l'en empêchez pas. N'empêchez pas celui qui veut me servir de me servir. Ne soyez pas une occasion de chute Il est préférable de finir dans la mer avec une grosse meule autour du cou que de commettre un tel péché. Et cette image montre combien il est grave aux yeux de Dieu d'être une occasion de chute pour l'un de ses petits qui croient. Voilà un avertissement solennel. Mais le disciple de Jésus, l'authentique disciple de Jésus, n'empruntera pas un tel chemin. Et bien plus, il veillera sur lui-même. Et c'est l'objet des versets 43 à 48. Dans les versets 43 à 48, par trois fois, Jésus énonce ce qu'il faut radicalement faire à cause du royaume de Dieu. Et je vous propose d'écouter encore une fois ce que Jésus dit. Verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » Verset 45, « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. » Et verset 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Voilà un passage qui est plus dur à écouter. Il est question de mains coupées, de pieds coupés, d'œil arraché, parce qu'il constituerait une occasion de chute. Bien entendu, Jésus ne demande pas de le faire littéralement. Et j'espère que ça vous rassure. Il ne demande pas de le faire littéralement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? De quoi devons-nous nous débarrasser alors? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que nous devons couper? Qu'est-ce que nous devons arracher? De tout ce qui nous conduit à pécher, de notre mauvaise manière d'utiliser nos membres. Et tout à l'heure, Laura a lu ce passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, où Paul parle du fait d'utiliser nos membres pour la justice et non pas pour l'injustice. Eh bien, Jésus nous demande ici de nous débarrasser de notre mauvaise manière d'utiliser nos membres. La main, le pied, l'œil englobent toutes les actions qui impliquent notre corps, englobent toutes les actions qui concrétisent aussi ce qui est dans notre cœur. Et si la mesure est si radicale, coupée, arrachée, c'est parce que le péché ne doit pas faire partie de la vie du disciple. Si la mesure est si radicale, c'est parce que le renoncement est nécessaire pour le royaume de Dieu. Le Dieu qui ne tolère pas le péché ne nous autorise pas à être tolérants avec le péché. Nous devons nous souvenir de cela. Le Dieu qui ne tolère pas le péché ne nous demande pas, ou en tout cas ne nous autorise pas, à être tolérants avec le péché. Et là, il s'agit de son propre péché, pas de celui des autres. Et quand Jésus dit « Mieux vaut pour toi avoir un membre coupé », il souligne que cela en vaut la peine. Cela vaut la peine de se débarrasser de ce qui constituerait un fardeau pour nous. Cela vaut la peine de le faire durant notre vie terrestre. Après, ce sera trop tard. Et il nous faut dire un mot de ce que Jésus désigne par la géhenne. Dans le langage courant, nous parlons de l'enfer, mais ce n'est pas le mot qui est employé ici. La géhenne est le nom qui vient d'une vallée, la vallée de Hinnom, qui est nommée notamment dans l'Ancien Testament. Et c'est par exemple le prophète Jérémie qui en parle, cette vallée de Hinnom. Jérémie qui parle de cet endroit où les habitants de Juda idolâtrent, brûler leurs enfants au feu. Et Jérémie annonce ensuite, nous lisons cela dans Jérémie chapitre 7, verset 32, « C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais vallée du carnage. cette vallée devient le lieu du jugement de Dieu. Et de manière symbolique, plus tard, la Géhenne désigne le lieu du châtiment éternel. Donc vous comprenez qu'au départ, c'est un lieu qui est réel, géographique, où il se pratiquait des choses horribles, un endroit où Dieu a aussi envoyé son jugement. Et puis par extension, de manière symbolique, la Géhenne désigne le lieu du châtiment éternel, c'est-à-dire loin de la présence de Dieu. Jésus parle de cette réalité terrible qui attend celles et ceux qui n'ont pas rompu avec le péché parce qu'ils ne le voulaient pas. La Géhenne est aussi décrite comme un feu qui ne s'éteint pas, versets 43 et 48, comme le lieu où le ver ne meurt pas. Et ces images, parce que ce sont des images avant tout, ces images sont tirées du dernier verset du livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, verset 24. Et ces images, eh bien, servent à représenter ce qui sera douloureux, ce qui sera éternellement douloureux pour les êtres humains qui sont restés rebelles à Dieu durant toute leur vie sur terre. Un tourment sans fin, un regret permanent, comme un ver qui ne meurt pas, comme un feu qui ne s'éteint pas. Jésus ne cache pas cette réalité à venir. Et c'est vrai que peut-être dans notre Église, nous ne parlons pas souvent du châtiment éternel et de la Géhenne, mais ici c'est l'occasion. L'occasion, de nouveau, de nous souvenir que c'est une réalité qui aura lieu. Et je sais qu'en parlant de cela, nécessairement, nous pensons à celles et ceux qui, encore aujourd'hui, n'ont pas accepté le Seigneur. Mais c'est encore un temps de grâce. Mais Jésus ne cache pas cette réalité. La Géhenne, c'est vraiment ce lieu où le regret sera sans fin. C'est pourquoi il enseigne à ses disciples à être radical avec le péché. Parce que ceux qui ne sont pas radicaux avec le péché finiront là. C'est ce qu'il dit ici. Si vous ne coupez pas, si vous n'arrachez pas, eh bien vous vous retrouverez là. Et ce n'est pas une blague. Assurément, suivre Jésus est coûteux et implique des renoncements dans cette vie. Et nous pouvons toujours nous questionner lorsque nous considérons que si une personne, par exemple, ne fait jamais de renoncement dans sa vie pour Christ, nous pouvons remettre en doute le fait que cette personne comprennent vraiment ce que cela implique de suivre Jésus. Nécessairement, à cause du péché, il nous faut être radical. Et suivre Jésus implique nécessairement des renoncements dans cette vie. Et vous savez, ce texte a d'abord fait effet sur moi cette semaine, au point que j'ai dû renoncer à quelque chose. Et je dois vous confesser que j'ai une faiblesse qui nécessite que je sois radical. J'ai un faible, notamment pour les jeux sur téléphone portable. Et en soi, je ne fais rien d'immoral. Mais il se trouve qu'avec moi, cela devient chronophage, une perte de temps. Et nous savons combien le temps que Dieu nous donne est précieux. C'est addictif et cela m'a de nombreuses fois détourné de mes priorités. Et il me semble que je dois aussi vous demander pardon pour cela. Parce que sans doute que plus d'une fois, ça a aussi terni la qualité de mon ministère. Et je ne vois pas d'autre moyen que de renoncer définitivement à jouer au moindre jeu vidéo sur mon portable, car j'y suis sensible. Je ne veux pas que cela constitue une occasion de chute pour moi. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, mais voici la mienne, et ce n'est pas la seule. C'est un exemple qui me concerne. Mais je vais aussi vous poser la question, frères et sœurs. À quoi dois-tu radicalement renoncer pour le royaume de Dieu? Pour continuer à être un disciple comme Jésus l'attend de toi? Peut-être que ce que j'ai raconté évoque autre chose pour toi. Et si c'est le cas, cet après-midi, tu as une décision à prendre. Veux-tu ou non renoncer à ce qui t'entraîne dans le péché? Cela peut être lié à une distraction, à une relation, à un environnement qui te conduise à pécher contre Dieu. Cet après-midi, prends une décision radicale, si Dieu te convainc de le faire par ce texte. Prends une décision radicale s'il est vrai qu'il est plus important pour toi d'honorer Dieu que de pécher contre lui. Et je voudrais maintenant juste laisser une minute pour celles et ceux qui ont une décision à prendre. Parce qu'il s'agit de ne pas tarder. Donc je laisse juste une minute pour permettre à celles et ceux qui ont une décision à prendre maintenant. La troisième leçon était un avertissement contre les occasions de chute. Et je termine par la quatrième et dernière leçon. Et je ne termine pas par le plus simple, en fait. Parce que les deux derniers versets ont diversement été interprétés et sont réputés difficiles à comprendre. Nous sommes toujours dans la continuité de ce que Jésus dit à ses disciples, et il vient d'évoquer le feu qui ne s'éteint pas. Et voici ce qu'il dit, verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Le sel et le feu, ensemble, évoquent l'idée de purification, très certainement. Le feu est également l'image du jugement dans la Bible, nous le savons. Et puisque tout homme sera salé de feu, eh bien, cela renvoie pour les uns au jugement qui les conduit au feu de la géhenne. Et je veux encore une fois préciser qu'il s'agit d'une image lorsqu'on parle de feu, pour parler du châtiment éternel. Et puis pour les autres, eh bien, cela renvoie à une purification dès cette vie. Et certains pensent même à la prescription qui est faite en Lévitique chapitre 2, verset 13. Voici ce que nous lisons dans la loi de Moïse. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Donc ici, effectivement, le sel a une valeur particulière. Et pour le disciple, eh bien, être salé de feu, c'est aussi être prêt à se laisser purifier afin d'être un sacrifice vivant pour Dieu, si je reprends l'expression de l'apôtre Paul. Se laisser purifier pour être un sacrifice vivant pour Dieu. Et cela rejoint les renoncements qu'il nous faut faire tout au long de notre marche en tant que disciples. Nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous conduire au péché. Et s'il y a une leçon que je tire de mes années de vie chrétienne, c'est que si nous ne nous occupons pas de notre péché, Dieu le fera, et notamment par des épreuves. Et dans tous les cas, c'est douloureux, mais toujours préférable aux tourments éternels. Et puisque le sel est une bonne chose, eh bien Jésus conclut par cette exhortation « Ayez du sel en vous-même ». Cela nous fait peut-être penser à ce que Jésus dit dans un autre discours. « Vous êtes le sel de la terre », Matthieu 5, verset 13. « Ayez ce quelque chose qui vous distingue des autres dans ce monde ». Et certainement que tout ce que nous avons dit du disciple précédemment peut être représenté par ce sel. Ayez du sel en vous-même. Ayez quelque chose qui vous distingue des autres, de ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. Et Jésus ajoute, soyez en paix les uns avec les autres. C'est ce que le maître veut pour ses disciples. Qu'ils ne cherchent pas à savoir qui est le plus grand, mais qu'ils recherchent la paix, qui est la marque des vrais disciples de Jésus. Et cela aussi nous questionne. Si effectivement je suis un vrai disciple de Jésus, je devrais être en paix avec mes frères et sœurs. J'en arrive à la conclusion. Je sais que c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais le texte aussi était un peu plus long. La vie à la suite de Jésus implique l'humilité et bien des renoncements. S'il est vrai que les disciples avaient encore du chemin à faire, nous voyons en Jésus un maître qui a pris le temps de les enseigner en privé, tout au long de la route qui le menait, lui, à la croix. Mes amis, les leçons que nous avons entendues de lui cet après-midi ont d'autant plus de valeur que c'est lui, le Messie souffrant, qui nous les donne. Lui, il est passé par un chemin tellement difficile. Et lorsqu'il nous demande de passer par un chemin difficile, il n'en demande pas trop. Mais ce serait faux de dire que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. Et que ça ne coûte rien de suivre Jésus. C'est faux. Ça a tellement coûté pour Jésus. Puissions-nous être des disciples comme Jésus le définit ici. Des disciples humbles qui sont disposés à être serviteurs de tous. Des disciples qui ont de la considération pour les petits, pour ceux auprès de qui peut-être on n'accorde que très peu d'attention. Des disciples qui savent accueillir largement tous ceux qui sont pour lui, pour Christ, y compris celui ou celle qui nous tend un verre d'eau. Des disciples qui veillent sur leurs frères et sur leurs sœurs au lieu d'être une occasion de chute. Qui prennent des mesures radicales contre leurs propres péchés pour se débarrasser de tout ce qui entrave leur marche dans la vie, vers la vie. Et enfin, des disciples qui ont du sel, qui sont des sacrifices vivants pour Dieu, qui attachent de l'importance à la paix avec leurs frères et sœurs. Vaste programme. Et la dernière chose que nous pouvons dire, demandons. Demandons que par son esprit et selon sa grâce, Dieu nous change ainsi. Que Dieu nous rende toujours plus humbles, sans avoir des rêves de grandeur, mais plus humbles à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen.